Just after 9 o'clock on Monday evening, which means it's time for Bouche à Oreille, Radio Verulam's programme for francophones and francophiles. The next hour will be exclusively in French, so brush up your language skills and get ready for a taste of France. With Aline Bavister, Geraldine Zielinski and Elise Lines.
Et bienvenue sur Bouche à Oreille, l'émission hebdomadaire de Radio Verulam tout en français. Nous sommes à l'antenne tous les lundis de 21h à 22h. Et ce soir, nous avons un programme bien chargé, n'est-ce pas Géraldine ?
Bonsoir, en effet, nous avons le plaisir d'accueillir Pierre-Henri Aubry, qui est lieutenant-colonel pour l'armée française détaché en Libye. Au Liban.
Ça commence pareil.
Ça commence pareil, mais ça fait pas la même chose. Et puis, donc il va nous parler de l'armée française et de ses missions. Et ensuite, nous parlerons avec Amanda Brown, qui, elle, nous parlera de Sir Optimist International à Saint-Alban. Donc nous allons tout de suite commencer l'émission avec les news culturelles avec Élise. Élise, qu'est-ce que tu as dans ton panier pour nous ce mois-ci ?
Alors il y a plein de choses ce mois-ci. Je vais commencer par les concerts. Alors le 19 et le 20 avril, Frérot de la Vega sera à Londres au Nels Jazz and Blues Club. Alors Frérot de la Vega, je vous rafraîchis la mémoire, ils avaient été découverts sur le net en 2013. Ils s'appellent Flo et Jérémy, voilà, ils font sensation très rapidement. Avec des vidéos de reprises acoustiques en fait, et ça a atteint très rapidement 10 millions de vues sur YouTube. Et en fait, désireux de faire de la scène, ils commencent à jouer dans des bars et des petits clubs rock en France, en Belgique et en Suisse. Et en pleine tournée, une émission de télé les révèle au grand public. Alors ils s'empressent de sortir leur premier album. Voilà, donc ça sort chez Capitol, donc Universal. C'est un premier disque qui connaît un très grand succès, vendu à plus de 400 000 exemplaires en moins d'un an. Alors les singles, c'était Sweet Darling, Mon Petit Pays et Le Chant des Sirènes. Et ça, c'est playlisté sur toutes les radios musicales nationales françaises. Voilà. Et leur second album, qui s'intitule Des Ombres et des Lumières, lui est sorti en novembre de l'année dernière. Et il était disque de platine en moins de 10 jours. Et il va bientôt sortir en Angleterre. Donc, après une grande tournée de plus de 150 dates en France, en Belgique et au Luxembourg, là, les Frérot de la Vega repartent sur les routes cette année avec un tout nouveau spectacle. Et ils vont sillonner les routes de France et d'Asie, donc Hong Kong et Japon, avant de venir à Londres, comme je vous le disais, les 19 et 20 avril pour deux concerts exceptionnels. Nous avons également Lou Doyon qui sera au Bush Hall le 27 avril. Donc en fait, Lou Doyon dit qu'elle a découvert la musique par le biais de son père. Voilà, elle dit « Lorsque mes parents se sont séparés, j'ai découvert la musique chez mon père qui a un goût délirant et pour le moins éclectique. Quand j'étais enfant, mon père me disait souvent « Assieds-toi là, ne bouge pas et écoute attentivement. » Et il passait des disques de Chet Baker, de Siouxsie, des Banshees, Nick Drake, Patti Smith pendant des heures. Voilà, passant du jazz au folk, du folk au rock anglo-saxon. La chanteuse cite également Bob Dylan, David Bowie et les Kings. Les Kings, pardon. En 2012, donc, elle va signer un contrat avec le label français Barclay pour 3 albums et elle va sortir un EP 4 titres, ICU, qui sortira en juin de cette année-là et qui a été produit par Étienne Dao et mixé par un des membres du groupe Cassius. Voilà. Donc, la chanteuse signe, elle, les paroles et la musique. Son univers est décrit comme un folk hanté par Nick Drake et Leonard Cohen. Libération, lui, parle de folk song élégamment troussé, délicate et légère. Donc Lou Doyon, c'est le 27 avril au Bush Hall. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, on a Christine and the Queens le 3 mai. Donc, Christine and the Queens, elle avait un concert en mars qui a été sold out assez rapidement. Donc, il y a eu une nouvelle date et c'est donc le 3 mai à la Roundhouse. Donc, je vais vous lire la bio qui est très sympa, qui a été mise à la disposition des radios. Donc, hiver 2010, de nuit, elle marche dans Londres. Elle ne sait plus du tout où elle en est. Un tournant de sa vie, manifestement. Ce soir-là, elle pousse la porte du Madame Jojo, bar interlope de Soho. Sitôt entrée, elle sait qu'elle vient de trouver un îlot salutaire. Elle y reviendra tous les soirs pendant plusieurs semaines. D'abord seule, à une table, aimantée par la liberté indomptable et malicieuse des travestis qui se produisent là. Jusqu'à ce que trois queens remarquent sa présence silencieuse. Et jusqu'à ce qu'un lien se tisse entre elles, au cœur, à l'os, oui. Tout va très vite. Au Madame Jojo's, on ne vient pas par hasard. On vient pour être enfin soi-même, se trouver peut-être. Au Queens, elle raconte, elle est française, elle étudie la littérature et le théâtre, mais trimballe une entêtante frustration. Elle écrit, mais ne fait qu'amonceler les pages. Elle pratique le piano, mais étouffe dans le répertoire classique. Accessoirement, elle ne parvient pas à se relever d'une rupture amoureuse qui l'a laissée face contre terre. Ce sont les Queens qui lui diront toutes ces nuits durant. Elle le gardera précieusement comme un talisman. Il faut s'inventer. Fût-ce à la marge, hors des sentiers battus, et vite, on n'a qu'une vie. Elle rentre en France, elle déserte les écoles qui ne la nourrissent plus. Elle est forte de ses possibilités de vie, si grandes qu'elle a découvert à Londres au Madame Jojo's. Elle s'enferme avec un ordinateur pour tout studio. Elle écrit, elle compose, elle chante, elle maquette. Avec des références aussi marquantes qu'éclectiques, du hip-hop, comme Drake, de la pop flamboyante, Kate Bush, de Gainsbourg version Gainsbourg, libido au plus haut, décadence totale, au couple mythique Lou Reed, Laurie Anderson, jusqu'aux instruments de Gavin Bryars et de Michael Nyman. Et bien sûr le génie Michael Jackson. Pour tout ce qu'il a donné à entendre, et à voir l'artiste et le personnage. Car c'est bien ça aussi qu'elle cherche, à inventer le personnage qui la fera se sentir enfin libre. En la matière, elle a une armoire entière de modèles. Le Bambi américain, évidemment, mais également Klaus Nomi, Andy Kaufman ou encore Narcisse, auquel elle s'identifie le temps de l'écriture et qu'elle ressuscite comme pour mieux trouver Christine. Voilà, elle s'appellera Christine. Et les chœurs qui résonneront dans ces chansons seront toujours à l'effigie des trois Queens de Londres, comme un écho infiniment reconnaissant. Donc Christine, comme je vous le dis, c'est le 3 mai à la Roundhouse. Ensuite, nous avons, mais il y a toujours, on vous en a parlé pas mal de fois, Souchon-Voulzy. Donc ça, c'est le 27 mai. On vous mettra les informations sur la page Facebook. Avant de vous quitter, il y a un dernier spectacle dont je veux vous parler. Il y en a d'autres, mais je vous mettrai ça dans notre blog. J'ai découvert quelque chose qui s'appelle les Franglaises. Alors, les Franglaises, c'est un groupe, en fait, c'est 16 personnes, c'est 16 membres d'une troupe, en fait, qui apportent un nouveau sens hilarant sur des chansons classique anglo-saxonne. Voilà, donc en fait, les Franglaises, ils proposent de traduire de façon littérale ou décalée les plus grands succès du répertoire anglo-saxon, histoire de vérifier la pertinence de ce que l'on chantonne sous la douche.
Ça promet de donner ça.
Ça promet. Alors, dans le spectacle, on croise Michel, fils de Jacques.
Bien sûr.
Michael Jackson. Les gens du village. Les petits pois aux yeux noirs.
Et puis, d'accord, ça y est, je suis.
Géraldine, je lui avais dit avant l'émission, mais ça arrive. Et les filles épicées.
Voilà.
On y chante en chœur et quelque peu interlocuté. Tu dis oui, je dis non, tu dis stop, et j'y dis va. Bon, voilà. Si on a le temps,
on vous fera un petit spoiler tout à l'heure.
On vous mettra un petit extrême. Ça s'appelle Les Franglaises. Ils ont un site internet qui s'appelle lesfranglaises.fr. Et il y a plein d'infos. Et ils sont donc à Londres pour deux nuits exclusives les 22 et 23 avril.
Super. Voilà. Merci, Lise. De toute façon, comme d'habitude, on fait comme d'hab. Tu nous mets tout ça sur la page Facebook et sur le blog. Et comme ça, si les auditeurs ont loupé quelque chose, ils pourront s'y référer. Merci beaucoup, Élise, pour cette revue culturelle. Alors, j'espère que nous avons Aline en ligne ce soir qui va normalement nous faire sa revue. Elle, c'est pas culturel, c'est plutôt les news. Bonsoir Aline, tu nous entends? Ah, bonsoir Aline, tu nous entends?
Ouais, moi je vous entends bien.
Eh
bien,
écoute, on t'entend super bien également. Et donc, bah vas-y, qu'est-ce qui se passe en France en ce moment?
Alors, il semblerait bien que ce mois de mars rimate avec morosité et ras-le-bol dans l'Hexagone. Vous allez me dire, les mois se suivent.
Quoi de neuf?
Et se ressemblent. Alors, ras-le-bol tout d'abord en ce qui concerne la réforme du code du travail, dont je vous avais parlé le mois dernier. Celle-ci vient d'être revue et corrigée suite aux critiques reçues de toutes parts depuis sa première ébauche. Le Premier ministre Manuel Valls a présenté le nouveau brouillon ce lundi devant les partenaires sociaux. Alors, il y a 7 concessions qui sont censées calmer les détracteurs du projet, avec entre autres des licenciements économiques mieux encadrés et la suppression des forfaits jours pour les PME, qui étaient particulièrement polémiques. Alors, les réactions des partenaires sociaux sont restées prudentes aujourd'hui, en attendant de voir les détails. Donc, comme d'habitude, on va dire affaire à suivre. Voilà. Alors, autre ras-le-bol chez les agriculteurs. Le Salon de l'agriculture avait ouvert ses portes dans la discorde avec des paysans en colère, qui ont sifflé le président de la République et le Premier ministre. Et grande première quand même, même pour la France, le stand du ministère de l'Agriculture avait même été démonté.
Ah, ils ont de l'humour. Alors, les agriculteurs.
Voilà, donc c'était vraiment du sport. Alors le message est passé, puisque il semblerait que les réclamations présentées par Stéphane Le Foll, donc le ministre de l'Agriculture à Bruxelles, commençaient à porter ses fruits. La Commission a annoncé, la Commission européenne, qu'elle envisage la limitation de production de lait, par exemple, pour tenter d'enrayer la baisse des prix, puisque c'est bien cette baisse des prix qui met en rogne les agriculteurs. Voilà. Alors, côté politique, on a bien sûr les présidentielles de 2017 qui commencent à pointer le bout de leur nez, avec des primaires annoncées pour les Républicains. Puis il y a également eu les élections législatives partielles qui ont vu le PS éliminé dans le Nord et dans l'Aisne, où le FN affrontera les Républicains au deuxième tour. Le PS est maintenu dans les Yvelines, où il affrontera les Républicains. Voilà. Et puis, on reparle également de la réforme territoriale. Alors, maintenant qu'on a découpé la France dans de nouveaux morceaux, l'heure est maintenant venue de nommer ces grandes régions pour éviter de trop s'en mêler les pinceaux.
Mais je croyais que c'était déjà fait depuis longtemps, ça.
Non, non. Alors, elles ont été redécoupées, mais on ne les a pas renommées.
Ah.
Et c'est vrai que il faut essayer de s'en mêler les pinceaux, parce que dire Champagne-Ardenne-Alsace-Lorraine, ça fait quand même beaucoup, ça fait beaucoup de syllabes.
Ça gagne au Scrabble, ça, en fait.
Voilà, exactement.
En un seul mot, alors, c'est bon.
C'est pas simple. Alors, cette nouvelle région sera sacrée soit à Cali, soit Rhin-Champagne, ou encore Nouvelle-Austrasie. Hein, on a rien inventé de mieux. L'option Grand Est, qui me semblait somme toute assez logique, elle a été éliminée. Donc voilà, ça sera soit à Cali, soit à Champagne, soit Nouvelle-Austrasie. Et puis le Nord-Pas-de-Calais-Picardie, quant à lui, vient d'être baptisé Hauts-de-France. O-H-A-U-T-S. Moi, je pense que les fabricants de panneaux indicatifs vont être contents. Ils doivent se frotter les mains parce que, avec tous ces nouveaux noms, ils ont du pain sur la planche. Voilà.
Oh. Ben, y en a qui sont contents quand même, alors, en France. C'est bien.
Bah ouais, voilà, tout à fait. Alors, sinon, on parle beaucoup de l'actualité à l'étranger et elle est très présente dans les médias de l'Hexagone aujourd'hui. Tout d'abord, un triste anniversaire avec 5 ans de guerre en Syrie. Un conflit qui semble interminable et qui ne finit pas de contraindre ses ressortissants de fuir vers l'Europe, avec la crise des migrants qu'on connaît. De nombreux observateurs ont d'ailleurs vu le revers électoral d'Angela Merkel aux élections régionales allemandes d'hier, et la montée des partis populistes tels que le AfD, alors excusez mon accent, alternative pour Deutschland comme une conséquence directe de la politique de la chancelière face à la crise des migrants. Mmh. Et toujours en parlant de la Syrie, Vladimir Poutine vient quant à lui d'annoncer le retrait des troupes russes de Syrie. Voilà. Et puis les attentats d'hier ont bien sûr fait couler beaucoup d'encre également. Premier attentat à Grand Bassam en Côte d'Ivoire, où 6 assaillants ont ouvert le feu sur la plage et dans un hôtel, avec au bilan 16 morts, dont 4 Français. Alors, avec un scénario en fait qui a rappelé les attentats précédents de Sousse en Tunisie, de Bamako au Mali ou de Ouagadougou au Burkina Faso, un attentat qui a été revendiqué par ACMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, et qui clairement cible un pays allié de la France. Les ministres de l'Intérieur et des Affaires étrangères français se rendront d'ailleurs sur place demain mardi. Autre attentat à Ankara, en Turquie cette fois, un attentat à la voiture piégée qui a fait au moins 36 morts et 125 blessés. Cette fois, ne sont pas les islamistes, mais les rebelles kurdes du PKK qui sont soupçonnés. Et l'aviation turque a d'ailleurs pilonné plusieurs bases du PKK en représailles. Et puis, côté sport, malheureusement, pas de...
C'est dommage parce que t'aimes bien le faire. Tu le fais quand même.
Mais je le fais quand même. Voilà. Je dis, c'est pas grave. Donc, pas de cocorico pour le 15 de France.
Et non.
Qui s'est incliné hier devant l'Écosse 18 à 29. On peut appeler ça une culottée. Hein.
Une déculottée même.
Une déculottée, voilà, je me disais, c'est pas une culottée. Elle est plus
là, la culottée. Les autres qui sont partis culottés.
Voilà. Et alors, en football, quand même, les supporters du PSG peuvent sabrer le champagne, car le club a été sacré champion de France une quatrième fois en écrasant Troyes. Je suis désolée s'il y a des Troyens au téléphone, ou plutôt à l'écoute. 9-0 en finale. Voilà. Et puis, pour mon... Ah ben voilà, je pense qu'on a plus de temps. Le bouche-bée, j'allais vous parler d'anglais très très éméché sur un vol Ryanair Londres-Bratislava qui a dû atterrir à Berlin. Et ben, je pense
tellement
que
ils étaient éméchés.
Tellement ils étaient éméchés. Je pense que cette histoire a fait le tour du web. Bon, mais voilà, ben voilà, c'est tout pour les infos pour
ça
ce
nous
soir.
Laisse toute bouche-bée. Merci beaucoup, Aline.
Bonne soirée. Au revoir.
Voilà, donc on vient d'écouter Aline, vous avez entendu le quick qui était par connexion Skype ce soir avec nous depuis chez elle, mais qui avait bien préparé sa petite rubrique avec plein de nouvelles qui nous réjouissent toujours autant. Heureusement qu'on finit par une petite rigolade avec le bouche bée. Nous allons donc tout de suite retrouver notre invité de ce soir, en tout cas notre invité de cette heure-là, dans Bouche à Oreille. Il s'agit du lieutenant-colonel Pierre-Henri Aubry, qui est coopérant auprès de l'armée libanaise. On l'a interviewé un peu plus tôt dans la journée et je vous laisse tout de suite avec cet entretien. À tout de suite. Donc ce soir, nous recevrons le lieutenant-colonel Pierre-Henri Aubry, qui est en ce moment coopérant auprès de l'armée libanaise. Bonsoir, monsieur Aubry.
Bonsoir.
Merci beaucoup de vous joindre à nous ce soir. C'est vraiment très gentil d'avoir accepté de répondre à nos questions. Donc notre sujet du soir, c'est l'armée française. Alors l'armée française, avec les quelques minutes que nous avons pour les traiter, ça va être assez rapide. On va commencer par vous présenter. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours personnel? Pourquoi et comment vous êtes rentré dans l'armée?
Oui, bonsoir à tous, merci de me recevoir, ça me fait très plaisir de pouvoir m'adresser à vous. Alors moi je suis un militaire, un officier qui a aujourd'hui 40 ans, je suis rentré il y a environ 20 ans dans l'armée, juste après le baccalauréat, par l'école des sous-officiers, qui s'appelle l'école nationale des sous-officiers d'active, à Saint-Mexant-l'École, et qui recrutait les gens au bac. Après 3 années comme sous-officier, dans une fonction un peu technique, j'ai rejoint l'école militaire interarmes qui forme des officiers de recrutement interne, de recrutement semi-direct, c'est le terme qu'on emploie dans l'armée. Et ensuite j'ai rejoint la Légion étrangère où j'ai servi pendant 8 ans, avant en 2012 de rejoindre l'école militaire à Paris et poursuivre une formation que nous appelons l'enseignement militaire supérieur, qui s'appelle l'école de guerre, qui est à Paris. Et après une année de scolarité, je me suis retrouvé donc à Beyrouth, où je conseille le général qui commande l'école d'état-major pour l'armée libanaise.
D'accord, très bien. Donc vous êtes rentré en formation dans l'armée juste après le bac. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de rentrer dans l'armée ?
Oui, alors bien sûr, les armées françaises, hein, donc armées de terre, marine et armée de l'air, recrutent et recrutent beaucoup. C'est un des plus grands gros employeurs en France aujourd'hui, à peu près à tous les niveaux. On peut tout à fait rentrer dans l'armée sans bac, sans aucune formation et recevoir une formation dans les armées. Rentrer avec le bac, globalement au niveau de ce qu'on appelle les sous-officiers, c'est-à-dire des cadres de contact, de petit encadrement. Ou alors, après des classes préparatoires ou après un master à l'université, au niveau des officiers, donc de l'encadrement ou du pilotage pour l'armée de l'air, par exemple.
D'accord, très bien. Et une fois qu'on est rentré, quelles sont les carrières qui sont disponibles ou possibles aujourd'hui dans l'armée ?
Alors, la plupart des militaires et surtout les plus bas niveaux dans l'armée sont des gens qui sont sous contrat. La plupart des contrats sont des contrats de 5 ans qui peuvent aller jusqu'à 8 ans en fonction du caractère plus ou moins technique de l'emploi. On pense évidemment aujourd'hui au système d'information, à l'internet et autres. Et évidemment les pilotes de chasse, les pilotes de chars, puisque nos armées ont atteint aujourd'hui une haute technicité. Mais en gros, on peut dérouler une carrière qui va de voilà un contrat de 5 ans jusqu'à une carrière dite longue qui peut durer jusqu'à 30 années, où on déroule au gré des examens et d'un certain nombre de concours ce que nous appelons une carrière complète jusqu'au grade d'officier généraux et donc au grade d'encadrement et de haute responsabilité.
Donc ça, si on veut rester toute sa vie dans l'armée, en fait, si je comprends bien, c'est des espèces, les autres contrats dont vous parlez, c'est des espèces de CDD en quelque sorte.
C'est exactement ça. Ce sont des CDD qui sont évidemment renouvelables et qui offrent à plusieurs échéances la possibilité d'être activé, c'est-à-dire de devenir un sous-officier de carrière ou un officier de carrière. Mais en fonction de la spécialité, de vos goûts, en fonction de ce à quoi vous aspirez, il y a vraiment de très belles opportunités qui s'offrent pour des fonctions d'encadrement, donc de commandement, mais également des fonctions très techniques d'application de techniques ou de mise en œuvre de matériel très technique.
D'accord, donc ça n'a rien à voir avec l'image. On a souvent l'impression que l'armée, c'est pour la vie, on y rentre, on ne peut pas sortir. Ça n'a pas l'air d'être ça, en tout cas pour les gens donc, qui, au départ, ont des contrats à durée déterminée. Pour ceux qui font carrière dans l'armée, est-ce qu'on peut sortir de l'armée ?
Oui, alors bien sûr, en gros, les gens qui sont de carrière sont pour la plupart des officiers, quelques sous-officiers de haute formation, quoi, donc des formations très techniques, et en gros, ça représente entre 27 et 30 % des effectifs. Donc la plupart des gens sont en réalité des gens sous contrat. Et voilà, à tout moment, on peut quitter l'armée. Alors bien sûr, on dispose à ce moment-là de la retraite qui correspond aux années effectuées et aux points accumulés, mais évidemment, c'est absolument pas pour la vie, même si lorsque on entre dans ce monde-là, je veux dire que c'était mon cas, parce que je ne connaissais absolument pas l'armée lorsque je suis rentré à 18 ans, c'est un milieu très prenant et passionnant, auquel souvent on s'attache.
D'accord. Et donc pour ces personnes qui quittent l'armée après X années, donc qui, comme vous venez de le souligner, ont la retraite qui correspond aux années où elles ont travaillé dans l'armée, comme n'importe quel emploi en fait, comment on se reconvertit ? Qu'est-ce que les gens font en général après ?
Alors ça, c'est très variable. Et ça correspond un petit peu à ce que je vous disais tout à l'heure en fonction du niveau de recrutement. Les gens qui sont ce que nous appelons les militaires du rang, donc les niveaux d'exécution, se reconvertissent généralement dans le même métier, mais dans le civil. Alors évidemment, je mets à part les métiers purement militaires de tireurs d'élite ou manipulation d'explosifs, etc. Mais par exemple, ceux que nous appelons les sapeurs, donc l'arme du génie, qui traite de déminage, de construction, d'infrastructures, etc., ont évidemment des voies absolument royales dans la construction en civil, dans les niveaux d'encadrement, sur des chantiers. C'est le cas également pour les gens du monde des télécommunications, des systèmes d'information, des ressources humaines, des finances, du budget, etc. Puisque là, dans les armées, on a un monde complètement qui fonctionne, si vous voulez, comme une entreprise avec tous les métiers qui sont peu ou prou représentés.
Voilà, c'est comme une énorme entreprise multinationale avec en fait plein de qualifications et de voilà d'expériences différentes qui sont qu'on peut revendre dans la dans le civil, on va dire.
Voilà, exactement.
Oui. D'accord. Dans l'armée française, Monsieur Aubry, quel est le rôle que jouent les femmes dans notre armée en France?
Alors, je suis un petit peu gêné pour répondre à cette question parce que moi, j'ai toujours connu l'armée française dite féminisée, c'est-à-dire que nous comptons parmi les armées les plus féminisées du monde.
D'accord.
Et donc, à epsilon près, les femmes jouent le même rôle que les hommes. Alors, je dis à epsilon près parce qu'il y a quelques fonctions qui sont encore desquelles les femmes sont encore exclues, mais qui sont en voie d'évolution. On pense aux sous-marins, où jusqu'à il y a quelques mois, les sous-marins concrètement n'avaient pas les structures adaptées à l'accueil de femmes à bord, mais c'est en train de changer. Et à l'exception de quelques unités hyper spécialisées du type opération spéciale, etc., les femmes ont accès à toutes les fonctions et à tous les postes dans les armées. Pour mémoire, on pense évidemment à Caroline Aigle, à la défunte Caroline Aigle, qui a été une des toutes premières pilotes de chasse, donc malheureusement décédée, mais qui était une femme absolument extraordinaire et qui a été un peu emblématique des femmes dans la chasse, mais également à aujourd'hui une dame qui commande un régiment de transmission. Et voilà, tous les postes leur sont ouverts et il n'y a aucune limite dans ce domaine-là.
D'accord, donc une femme dans l'armée française peut espérer avoir la même carrière qu'un homme. Très bien, écoutez, merci beaucoup. Si vous venez de nous rejoindre, nous sommes en train de parler avec le lieutenant-colonel Pierre-Henri Aubry, qui est coopérant auprès de l'armée libanaise, donc dans l'armée française, et nous allons nous retrouver après une petite pause. À tout de suite.
Radio Verulam Community Partners. If you're pregnant or in the early stages of parenthood, NCT St. Albans and District Branch is there to support you through the first 1,000 days. It's where local parents-to-be and new parents meet others and make strong, supportive friendships. You might be interested in antenatal or postnatal courses, or fancy bagging a few bargains at our famous nearly new sales. Maybe you just want to meet others like yourself for coffee and a friendly chat, or attend one of our many events. For more information, please email stalbans@nct.org.uk. That's stalbans@nct.org.uk. Or call 0300-330-0700. This year is NCT's 60th anniversary, so come and join in on the celebrations. For more on Radio Verulam's Community Partner Scheme, go to radioverulam.com/community partners.
Celebrating local heroes, the Mayor's Pride Awards.
The winner is Emma Cox,
Andrew and Simon Salter.
We're live from the Ardmore House Hotel with the nominees and winners of these prestigious awards. Tuesday at 7.
Where the award is Don Dell of the British Legion.
Radio Verulam at the Mayor's Pride Awards, honouring extraordinary individuals and outstanding organisations in St Albans District. A night to remember. Tuesday evening from 7 on 92.6 FM.
RIA on 92.6 FM, Radio Verulam.
Bonsoir, vous êtes bien sur Bouche à Oreille et ce soir, nous interviewons le lieutenant-colonel Pierre-Henri Aubry qui est coopérant auprès de l'armée libanaise, lui-même dans l'armée française. Donc nous venons de parler, de nous quitter sur le rôle des femmes dans l'armée, où nous avons découvert que les femmes ont la même place dans l'armée française que les hommes. Il me semble, monsieur Aubry, que vous êtes parti, donc comme vous nous l'avez raconté tout à l'heure, très très vite à l'étranger avec l'armée. Ça nous amène à la Légion étrangère. Pour ceux qui ne sont pas au courant, qu'est-ce que c'est la Légion étrangère dans l'armée française?
Alors, bonsoir à tous. En effet, moi j'ai servi 8 années à la Légion étrangère. La Légion étrangère, c'est une spécificité française. En 1831, le roi de France, le roi des Français à l'époque, décide de renouer avec une vieille tradition française qui consiste à enrôler des étrangers au service de la France. Alors on a bien sûr en tête les gardes suisses, mais en fait dans toute l'histoire de France, aussi loin qu'on puisse remonter, nos rois autrefois employaient des étrangers pour faire la guerre, au service de la France et donc à la place en quelque sorte des Français.
C'est des sortes de mercenaires?
Alors ça c'est le gros mot effectivement qu'on utilise souvent à ce sujet. En l'occurrence, ça en a tous les aspects sauf que c'est régi par un décret et par la loi, et donc ces hommes qui s'engagent au service de la France sont tout à fait des légaux et encadrés par un décret signé par le gouvernement et tout à fait intégrés à l'armée française comme tout autre soldat.
D'accord. Il n'y a pas du tout de troupes françaises avec eux ou avec elles?
Au sein de la Légion étrangère, il n'y a officiellement pas de Français, mais les unités de la Légion étrangère sont employées comme les autres unités de l'armée française sur les mêmes opérations et dans les mêmes conditions et en application des mêmes règlements et sont soumises bien entendu aux mêmes réglementations que l'armée française et donc que la plupart des armées européennes.
D'accord, très bien. Et donc ça, vous dites, c'est une spécificité de l'armée française? On ne le retrouve pas trop dans les autres armées?
Oui, voilà. À ma connaissance, il y a une légion espagnole, qui est d'origine d'ailleurs, qui est à l'origine la légion française vendue à l'Espagne, fin du 19e, mais qui, grosso modo, emploie des Espagnols en rupture de banc un peu avec la société et ou des Hispaniques. La légion étrangère en France, c'est vraiment. C'est 150 nationalités aujourd'hui.
C'est extraordinaire.
Voilà, et des gens qui viennent de partout, donc évidemment d'Europe, mais également d'Afrique, d'Océanie, du Pakistan, d'Afghanistan, de Russie.
D'accord.
Et on suit à travers le recrutement au sein de la Légion étrangère les aléas de des difficultés que rencontrent un certain nombre de régions, puisque les gens qui se retrouvent sans emploi, qui se retrouvent en grande difficulté et qui veulent changer de vie, peuvent rejoindre, tenter leur chance en tout cas à la Légion étrangère, parce que nous avons un niveau de recrutement et un niveau de sélection assez élevé. Néanmoins, tout le monde y a sa place, pour peu qu'on ne soit ni un criminel, ni un malfrat.
D'accord. Donc justement, à propos des régions qui souffrent, est-ce que la France, elle est en ce moment officiellement en guerre dans certaines parties du globe?
Alors officiellement en guerre, non. Permettez-moi de distinguer là le droit,
oui.
C'est-à-dire les règles de droit. La déclaration de guerre n'est plus employée, me semble-t-il, depuis la guerre entre l'Iran et l'Irak dans les années 80. Et désormais, on parle d'intervention, on parle d'opération.
D'accord.
Maintenant, dans les faits, et le président de la République française, donc l'a rappelé. Le 16 novembre dernier, si je ne m'abuse, nous ne sommes pas en guerre contre un pays, mais nous sommes en guerre contre les terroristes qui en veulent à notre façon de vivre, à notre culture et donc à aux personnes qui sont en France et aux biens. Par conséquent, voilà, légalement, nous ne sommes pas en guerre contre qui que ce soit, mais dans les faits, les armées françaises mènent un certain nombre d'opérations aux côtés de nos alliés, de nos partenaires, européens ou internationaux, contre aujourd'hui les terroristes.
Alors justement, quelles sont nos missions, les missions de l'armée française en ce moment?
Alors les missions les plus connues aujourd'hui, c'est évidemment sur le territoire national, ce que nous appelons nous soldats le territoire national, c'est-à-dire à l'intérieur de nos frontières métropolitaines et de nos territoires d'outre-mer.
Mm-hmm.
Des opérations de sécurisation, des opérations de protection de la population et des lieux de culte et des lieux ouverts au public. Ça, c'est la première grosse opération qui mobilise près de 15 000 personnes en permanence, soit déployées sur le terrain, soit dans des fonctions techniques d'écoute, de recherche ou de renseignement. Mais à peu près le même effectif également est déployé actuellement à l'étranger, essentiellement en Afrique. Aux côtés, évidemment, on se souvient du Mali, mais également de la Centrafrique, aux côtés de nos partenaires et amis africains qui ont fait appel à la France et qui ont fait appel à la mise en œuvre, en particulier, de nos accords de défense avec ces pays.
D'accord. Donc il y a des accords auxquels ils peuvent se raccrocher pour demander de l'aide en cas de besoin à l'armée française qui, donc, vient les assister selon les accords qui ont été signés entre les deux pays.
C'est exactement ça. Soit les assister, soit les accompagner. C'est ce qui se passe la plupart du temps. En fait, des forces africaines sont mises sur pied. C'est tout à fait le cas actuellement au Mali dans la lutte contre le terrorisme.
Mm-hmm.
Or, les pays africains qui luttent sur leur territoire contre les groupes armés terroristes. Mais un certain nombre de pays occidentaux, et en particulier la France, est toujours à leur côté, soit en assistance technique, donc on pense évidemment au renseignement, puisque nous disposons d'un certain nombre de capacités qui permettent de diffuser du renseignement.
D'accord.
Et également en termes de ce que nous appelons l'appui aérien, puisque nous disposons d'une armée de l'air un peu plus développée qu'un certain nombre de ces pays.
D'accord, très bien. Si vous venez de nous rejoindre, nous sommes en entretien avec le lieutenant-colonel Pierre-Henri Aubry, qui est coopérant auprès de l'armée libanaise. Lui-même fait partie de l'armée française et nous parlons de l'armée française. Monsieur Aubry, qu'est-ce que vous faites au Liban? Puisqu'on est en train de parler des missions de l'armée française à l'étranger.
Eh bien, exactement. C'est tout à fait le cas d'une assistance ou d'une coopération. Moi, je suis un coopérant, c'est-à-dire que concrètement, je suis prêté par la France à l'armée libanaise pour conseiller et assister à un général qui commande une école d'état-major. L'école d'état-major à Beyrouth, l'école Fouad Chehab de commandement et d'état-major, est le stade ultime de la formation des officiers supérieurs libanais. En gros, on peut comparer ça à un MBA militaire, si vous voulez, des gens qui, après 15 ou 17 ans de service dans des unités opérationnelles, se forment pendant un an au domaine et aux problématiques de niveau stratégique, géopolitique, politique, juridique bien entendu, pour atteindre dans les 5 à 10 années qui viennent les postes de direction de l'armée libanaise. Voilà, c'est donc tout à fait il s'agit en fait d'un jumelage avec notre école de guerre qui est située peut-être pour certains qui est située dans l'école militaire place Joffre donc à Paris.
D'accord, très bien. Donc vous assistez dans une école avec des militaires français pour former les militaires libanais à leur futur poste de stratégie, de décision dans leur armée nationale.
Voilà, alors en fait, concrètement, je suis le seul officier français. Hein.
D'accord.
Je suis simplement un conseiller, je ne dispose pas de collaborateurs autour de moi. Plus exactement, tous mes collaborateurs sont des Libanais. Mais simplement, l'école de guerre à Paris dispose d'une certaine expertise. Je suis moi-même un ancien élève de cette école. Et nous assistons donc l'école d'état-major libanaise pour faire évoluer un petit peu ses programmes et pour coller en quelque sorte aux standards occidentaux, donc français, britanniques ou américains.
Très bien. Donc on a parlé tout à l'heure des différentes voies pour entrer dans l'armée et faire carrière. Une chose qui n'existe plus et qui existait, qui était peut-être une des façons dont les gens découvraient l'armée et rentraient, c'était le service militaire. Alors, service militaire en France, il faut le rétablir, il ne faut pas le rétablir? Qu'est-ce qui se passe?
Alors ça, c'est une question intéressante et un petit peu épineuse en ce moment. Service militaire et ou service national, effectivement, du point de vue de l'armée, le meilleur moyen de se faire connaître et éventuellement de recruter, d'attirer des gens vers nos armes, était ce moyen du service militaire qui permettait à un certain nombre de gens de découvrir un monde différent, un milieu différent qui pouvait les attirer. Mm-hmm. Le service de la nation pouvait les attirer. Aujourd'hui, donc pour mémoire, le service national a été suspendu en 1996 par le président Jacques Chirac. Donc ça n'a pas complètement disparu. Hein. Il reste quand même la possibilité de réouvrir cette option pour nos jeunes gens. Néanmoins, se pose clairement la question des moyens. Vous savez que la France, comme la Grande-Bretagne et comme la plupart des pays européens, traversent une période de crise économique assez sensible. Par conséquent, le budget des armées et le budget des forces armées d'une manière générale ont été sensiblement réduits. Donc aujourd'hui, il paraît quand même un petit peu difficile et illusoire de réouvrir comme ça du jour au lendemain un service militaire.
Il faudrait s'y préparer. Oui, pardon.
Pardon. Un service national, en revanche, pourquoi pas, sous différentes formes, avec une composante qui pourrait être militaire pour un certain nombre de jeunes gens volontaires, ça paraît tout à fait envisageable.
Donc pour distinguer les deux, le service national, c'est quoi par rapport au service militaire?
Un service national, ça pourrait être un service dans tout type de ministère.
D'accord.
Pourquoi pas l'éducation nationale, la santé, les transports, que sais-je. Le service militaire, c'est vraiment focalisé sur les armées. Et là, très clairement, aujourd'hui, les armées françaises ne disposent plus de la capacité d'absorption de je ne sais combien, je crois que c'est 130 000 jeunes gens qui arriveraient chaque année. sont voilà, dans ces unités.
Vous avez des chiffres justement pour nous aujourd'hui, l'armée elle emploie combien de personnes ?
En gros, les armées.
Les armées.
Armée de terre, marine et armée de l'air, c'est en gros 300 000 personnes. Et je dis bien 300 000 personnes, puisque, donc évidemment, des hommes et des femmes d'une part, mais également au sein des armées, un certain nombre de civils, de ce que nous appelons les personnels civils de la défense, qui sont des gens qui occupent des postes soit en administration centrale, soit dans les administrations déconcentrées, des postes de ressources humaines, de finances, de budget et autres.
D'accord.
Et de militaires stricto sensu, en gros, il faut compter 250 à 270 000 personnes.
Ces personnes, elles ont un statut de fonctionnaire ?
Alors, le statut est très proche du statut des fonctionnaires, mais comme on l'évoquait tout à l'heure, la plupart des gens, environ 70% de ces gens-là, sont sous contrat, des contrats à durée déterminée de 5 à 8 ans, qui peuvent être renouvelés et qui peuvent ouvrir sur des postes de carrière, donc voilà, qui s'apparentent à des postes de la fonction publique.
D'accord. Quelle image pensez-vous que les Français ont de leur armée aujourd'hui ?
Alors c'est une question un petit peu délicate, parce qu'il est toujours difficile de parler de soi-même. Je me suis penché, pour ne rien vous cacher, sur des sondages récents, et il semble que, en tout cas en France, 81% des Français aient une opinion bonne, voire très bonne, des armées. Il se trouve depuis quelques années, depuis une dizaine ou une quinzaine d'années, les armées françaises disposent effectivement d'une excellente image et d'une aura en France, en particulier du fait des opérations extérieures et je pense aussi du lourd tribut que nos armées ont dû concéder, en particulier en Afghanistan, parce qu'un certain nombre de gens ont été très sensibles au fait que de jeunes gens servant leur pays ont perdu la vie ou perdu l'usage d'un membre très loin de leurs frontières, très loin de leur famille. Et je crois que ça a sensibilisé les gens sur l'importance de cet engagement au service du pays tout entier.
Donc pour le moment, vous êtes plutôt dans une vague positive en France. Très bien. Si nos auditeurs ou certaines personnes se posent la question de comment est-ce que je peux faire une carrière dans l'armée, est-ce que vous avez des conseils à leur donner ?
Alors, des conseils, ce serait un petit peu présomptueux de ma part. Je pense que d'une part, il faut réellement se poser la question de ce que nous appelons un peu pompeusement la vocation militaire, parce que c'est un métier un petit peu à part, où on peut faire le sacrifice de sa vie, ça je pense qu'il ne faut pas du tout l'occulter. Ensuite, plus prosaïquement, j'enverrai les gens vers le site du ministère de la Défense et le site des armées, où de nombreux renseignements leur sont offerts. Mais en fait, voilà, je crois que la première des choses, c'est d'avoir à cœur de servir son pays dans un mode très très particulier qui est un service assez absolu et dans un environnement très particulier, mal connu de nos jours comme on l'évoquait, mais qui est tout à fait passionnant et très prenant.
Très bien. Eh bien, donc on va mettre le site du ministère sur notre page Facebook pour renseignement. Vous êtes au Liban encore pendant combien de temps ?
Pour encore quelques mois, je rejoindrai la France et plus particulièrement le plateau du Larzac dans 4 mois, puisque l'armée de terre française remonte en puissance un régiment complet de la Légion étrangère sur le plateau du Larzac, comme peut-être certains d'entre vous le savent, à partir du 1er juillet prochain.
Très bien. Eh bien, nous vous souhaitons une bonne continuation, un bon retour en France. Et donc, nous vous remercions énormément. C'était le lieutenant-colonel Pierre-Henri Aubry, coopérant auprès de l'armée libanaise. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et bonne continuation.
Bonsoir.
Bonsoir, merci.
If you've just tuned in, this is Bouche à Oreille, Radio Verulam's weekly French show for West Hearts, Francophones and Francophiles. We are here every Monday from 9 p.m. to 10 p.m. on 92.6 FM for a show exclusively in French.
Rebonsoir, vous êtes bien sur Bouche à Oreille, l'émission de Radio Verulam tout en français tous les lundis soirs. Et nous venons d'écouter un entretien avec le lieutenant-colonel Pierre-Henri Aubry qui travaille pour la Légion étrangère et qui est coopérant auprès de l'armée libanaise. Voilà. Donc Monsieur Aubry a également écrit un livre qui s'appelle « Le général Lanrezac » et qui est aux éditions Argos, qui est paru en novembre dernier. Ce général est un général de la Première Guerre mondiale qui est un peu oublié, mais qui a une histoire assez particulière et qui apprend beaucoup de choses sur la stratégie. Et tous les bénéfices des ventes de ce livre iront à l'association Terre Fraternité, qui est une association qui vient en aide aux blessés de l'armée et à leurs familles. Donc voilà, vous pouvez trouver ça sur tous les bons vendeurs en ligne ou en vrai si vous êtes en France. Très bien, très bien. Eh bien, il est temps maintenant de retrouver Amanda Brown, qui elle est venue pour notre section Tranche de vie, où nous vous invitons des personnes qui habitent dans le coin et qui sont francophones et francophiles à venir nous parler de ce qui les intéresse. Amanda nous parle de Sir Optimist de St. Albans. Bonsoir Amanda et merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation pour venir parler de Sir Optimist ici ce soir sur Bouche à Oreille. Bienvenue.
Bonsoir Géraldine, je suis très heureuse de vous joindre ici et parler d'une organisation internationale, les Sœurs Optimistes.
C'est tout le plaisir pour nous, merci beaucoup Amanda. Alors, Sœurs Optimistes, de quoi on parle?
Ok, d'abord je vais lire un message de la présidente de la Union française. Il y a des Sœurs Optimistes partout.
Allons-y.
Elle dit, depuis 1921, les Sœurs Optimistes prennent des initiatives et se mobilisent afin de transformer la vie des femmes, des filles et des enfants. Grâce à un réseau mondial, les membres engagés dans la société et à travers des partenariats internationaux, les Sœurs Optimistes font bouger les lignes en créant une différence positive.
Très bien. 1921, vous avez dit?
Oui, oui.
Incroyable.
C'est presque 100 ans.
Presque oui. 100 ans, oui.
Oui.
Alors, Sœurs Optimistes, qu'est-ce que ça veut dire, le mot
okay,
lui-même?
Le mot. Le mot Sœurs Optimistes devient d'un mot latin, soro, S-O-R-O, qui signifie sœur. Et optimo, et ça veut dire le mieux, quoi.
Le mieux, comme optimum.
Oui.
Voilà, on retrouve.
Exactement. Ensemble, ça veut dire le mieux pour les filles et les femmes.
Ah, d'accord. J'avais pensé que ça voulait dire la meilleure sœur, mais non, ça veut dire le mieux pour tout le genre féminin. Très bien.
D'accord. Ok, so, traditionnellement, les membres de Sœurs Optimistes étaient directrices ou propriétaires d'une entreprise. Mais maintenant, l'organisation est plus inclusive et se compose des femmes qui travaillent dans des secteurs, des industries très variées. Aussi, il y a des retraités qui nous donnent de l'expérience de la vie et de la maturité.
Bien sûr.
Des qualités très estimées, hein?
Oui. C'est toujours bien d'avoir des personnes avec de l'expérience.
D'accord, je crois que le plus âgé a 90 ans.
Oh, c'est fantastique.
Oui, elle s'appelle Jean. Ok.
Bravo, Jean.
Oui, bravo, hein. Je suis membre du groupe St. Albans District. Elle est composée des femmes qui vivent aux alentours de St. Albans et Harpenden, mais nous sommes ouvertes à tout le monde dans tout le Hertfordshire.
D'accord, c'est pas un club fermé, vous avez des membres qui viennent de plus loin que juste les villes locales.
Oui, nous nous rencontrons deux fois par mois, lundi soir à Chiswell Green, à la salle de réunion de l'église United Reform à 8h.
D'accord.
Tout ce qu'il faut, c'est d'avoir une passion pour changer la vie des femmes, ici en Hertfordshire, au niveau national ou mondialement. C'est à vous de choisir.
Donc il faut juste avoir la motivation pour se joindre à vous les lundis soirs dans l'église à Chiswell Green.
Oui, absolument. Donc, les membres sont divisés en trois équipes selon leurs intérêts.
D'accord.
Moi, je suis membre de sew, comme le mot coudre.
Coudre. Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Oui, ça veut dire sustainability, education and well-being.
OK.
OK.
Donc, ça, c'est un des trois groupes et donc il y en a d'autres.
Nous invitons des oratrices qui parlent de leur travail et surtout la différence qu'elles apportent à la vie des femmes. Par exemple, deux employées de Lush à St. Albans a expliqué les relations entre leurs entreprises et les agriculteurs en Kenya qui fournissent les ingrédients pour les savons et les crèmes de corps.
D'accord, c'est intéressant. Donc ce magasin Lush, c'est celui qui est à Saint-Alban et qui vend en effet des produits de beauté.
Oui,
d'accord.
Absolument.
Donc il y a des gens qui sont venus vous expliquer comment ils contribuent en fait à l'économie au Kenya pour les personnes qui produisent. Et je suppose qu'il y a beaucoup de femmes qui sont impliquées dans la production des produits de base pour ces produits de beauté.
Oui. Aussi, nous récoltons des fonds pour les charités locales, par exemple Homestart, qui supporte des familles avec enfants moins de 5 ans. Mm-hmm. Et aussi la Refuge des femmes de St. Albans, qui offre un endroit en sécurité pour les femmes qui sont en danger.
D'accord, donc vous faites aussi des opérations pour faire des levées de fonds pour ces,
oui,
pour ces associations. Je reviens à la conférence de la personne de Lush. Ça, c'était ouvert aux membres de Sir Optimist ou c'était une conférence qui était ouverte au grand public?
Au grand public, oui.
D'accord.
Oui. Oui, exactement.
Très bien. Donc, bon, présentation de ce problème, en fait, de la situation de la femme dans le monde au grand public. Opération de levée de fonds pour les charités locales.
Oui, en hiver, nous avons, avant Noël, nous avons chanté des chansons de Noël à la gare de St. Albans. Oui.
Ah, très bien.
Oui, les blancs liaisards ont donné plus que 500 livres.
Waouh!
Oui, oui, c'était super. Je crois qu'ils étaient un peu choqués, hein. 20 femmes.
en train de chanter des chansons de Noël.
En pleine, on dit en pleine voix.
Oui, oui,
oui,
oui. C'était fantastique.
Oui, c'était fantastique. C'est surtout les hommes qui ont de l'argent dans les poches.
Hein. Ah ouais, très bien.
Oui. Un grand merci.
Un grand merci.
Un
oui,
grand merci
à tous les voyageurs qui ont participé au moment de Noël.
Oui. Donc. La semaine dernière, lundi, nous avons célébré le Jour international des femmes.
Absolument.
Et tous les membres ont porté un chapeau ou une coiffure qui représente une femme qui leur parle.
D'accord.
Comme les femmes qui ont travaillé dans la guerre, ici en Angleterre
oui.
ou d'ailleurs. Des africaines, les pompiers.
D'accord,
nous avons eu des femmes pompiers, Elizabeth Fry et des autres activistes.
Super. On peut voir une très belle photo de vos membres avec tous leurs beaux chapeaux sur le site de Sir Optimist de St. Albans. Donc, on va donner l'adresse et puis on la mettra évidemment sur notre blog et sur notre page Facebook. C'est une adresse assez longue. Le site principal, c'est SIGBI, donc c'est SIGBI.org. Mais si vous allez sinon sur Google ou n'importe quel autre moteur de recherche et vous tapez Sir Optimist St. Albans, vous allez trouver le site web. N'hésitez pas à aller voir la belle photo de tous les chapeaux qui représentaient donc des femmes importantes aux yeux de chacun des membres.
C'était bien, oui. Nous avons eu un quiz aussi et moi j'ai gagné.
Oh bravo, bravo.
Belle bouteille de vin rouge.
Super.
Oui. Parce que c'est comme ça, on commence à avoir beaucoup plus d'amis. Hein.
D'accord, c'est aussi
c'est aussi pour
un côté social cette organisation.
D'accord, oui. Donc cette année, nous célébrons notre anniversaire.
À quel âge allez-vous avoir?
Ah oui, 60 ans.
Waouh, fantastique.
Oui, 60 ans.
60 ans.
Ouais.
On appelle ça Diamond Anniversary?
Oui.
Oui, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Bon, alors vous allez avoir des festivités,
oui.
On peut participer à votre anniversaire?
Oui, nous préparons beaucoup d'activités, aussi ouvertes au grand public aussi.
D'accord, donc si tous nos auditeurs sont intéressés, ils veulent faire la fête avec vous et célébrer vos 60 ans, n'hésitez pas à aller sur le site web et vous retrouverez tous les événements qui sont organisés par l'association Sir Optimist. Voilà, donc juste pour conclure, cette association, donc comme on a dit, elle permet au grand public d'être un peu plus alerte sur la situation de la femme localement et aussi dans le monde. Elle récolte des fonds. Je crois que vous avez dit hors antenne que vous aviez une représentation aux Nations Unies, c'est ça?
Oui, oui, c'est vrai.
D'accord.
Parce qu'il y a des clubs dans plusieurs villes en Angleterre, partout en Europe. Et puis dans beaucoup de pays, Je ne sais pas combien de pays, mais c'est indiqué sur l'internet.
D'accord, mais un peu partout, en tout cas, oui. vous êtes présent. Et donc, pour les membres ou les personnes qui voudraient être membres, comme vous avez dit, vous accueillez tout le monde à partir du moment où il y a une motivation de changer la situation de la femme, de la position de la femme dans le monde. Et si j'ai bien compris, en fait, il y a plusieurs niveaux où on peut être impliqué pour faire des récoltes de fonds, que ça soit aussi petit qu'organiser un coffee morning ou faire des plus gros événements. Mais on peut aussi faire de la politique si c'est ça ce qui intéresse les membres et faire du lobbying auprès des organisations. On peut également s'occuper directement des personnes qui sont concernées, donc des femmes et qui sont concernées par le problème. Donc on peut travailler sur le terrain. Il y a vraiment beaucoup de façons et de niveaux auxquels on peut s'impliquer selon évidemment le temps des personnes qui s'impliquent et leur intérêt. Donc n'hésitez pas à aller sur le site web. Donc je redonne le site web. Ça s'appelle SIGBI.org. Écoutez, Amanda, merci beaucoup pour votre temps et pour toutes les informations précieuses que vous nous avez données. Merci beaucoup de vous être déplacée pour nous ce soir. Et nous espérons que le message arrivera à toutes les oreilles de nos auditeurs et que vous aurez un très beau retour avec des nouveaux membres.
Merci, c'est très
merci,
gentil.
Amanda. Amanda, une petite question. Vous accueillez les hommes aussi dans votre association?
Ah non.
Voilà.
C'est seulement les
toutes nos auditrices.
Oui.
Merci beaucoup.
Merci.
À très bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Eh bien, Élise, c'est déjà à l'heure de nous quitter, n'est-ce pas? Oui, bah oui, c'est déjà.
Déjà.
C'est donc notre émission à thème est terminée. Nous avons à dire un grand merci à Pierre-Henri Aubry qui nous a parlé des armées. Ça y est, j'ai compris qu'il n'y a pas une armée, c'est des armées françaises pour son intervention. Et donc nous avons mis sur la page Facebook toutes les informations dont nous avons parlé, y compris un lien vers le livre qu'il a écrit. Et nous mettrons également tout ça sur le blog. Et puis nous disons également merci à Amanda Brown pour être venue nous parler de Soroptimist International, donc qui est à St. Albans. La semaine prochaine, on se retrouve avec toi, Elise.
Oui, voilà, on fera une émission tout en musique et ce sera une sélection d'artistes françaises, une sélection toute féminine, voilà. Et je voulais vous rappeler que vous pouvez réécouter l'émission de ce soir, la semaine qui suit sa diffusion, donc à partir de demain, en allant sur radioverulam.com et en cliquant sur Listen Again. Et elle sera également disponible en podcast à partir de la semaine prochaine, voilà. Donc, vous avez une semaine pour nous retrouver à la radio et puis sinon en podcast à partir de la semaine d'après.
Voilà, ça c'est pour écouter l'émission qui vient de passer. Si vous voulez aller sur notre blog, je rappelle l'adresse, c'est bouche-à-oreille.radioverulam.com. Donc voilà, vous avez toutes nos adresses et vous n'avez plus qu'à vous brancher ici la semaine prochaine à la même heure.
Voilà, on vous dit au revoir et à la semaine prochaine, 21h.
Au revoir, à bientôt.